L'île au peuplier, un feuilleton radiophonique avec un promeneur, un philosophe, une torche, une question perdue, une nuit, une balade, deux époques, un temps à contre-temps, mais surtout, et c'est important, aucune réponse toute faite. L'île au peuplier, résumé de l'épisode 6. Jean-Jacques Rousseau se souvient peu à peu de sa dernière balade, de cette matinée du 2 juillet 1778. Les morceaux de sa mémoire viennent compléter un pulse vieux de 237 ans. Assis sur une souche, Jean-Jacques et Julien partagent leur nuit. Les voici arrivés près de l'étang aux crapauds. Épisode 7, l'étang aux crapauds. Eh bien, Jean-Jacques, si on m'avait dit un jour que par une nuit de presque pleine lune, je serais assis sur une souche dans le parc Jean-Jacques Rousseau d'Hermenonville, avec un illustre philosophe âgé de 303 ans, et le tout au bord d'un étang aux crapauds, j'aurais bien rigolé, croyez-moi. Mais finalement, ce n'est pas drôle. C'est irréel, en dehors de tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce qui est drôle, en revanche, dans le sens bizarre, c'est qu'hier, je me sentais seul, mélancolique. C'est pourquoi je suis venu au parc. Habituellement, j'ai toujours quelqu'un à voir, ou un truc à faire, la peur du vide sans doute. Et je me demande si quelque chose ou quelqu'un m'a poussé à venir ici. Vous parliez d'antenne, de récepteur. Peut-être est-ce vous? Je veux dire, l'énergie que produit votre spectre. Celle-là même qui m'aurait conduit en quelque sorte jusqu'ici, et qui m'aurait appelé. Non, Julien, non, ce sont les crapauds. Les crapauds? Ce sont des esprits anciens. Chacun d'eux communique avec quelqu'un, quelque part. Les esprits s'égarent, les âmes errent, les crapauds s'en emparent. Ils ont une mission, un message à transmettre, un coassement réglé sur l'ouïe de leur cible. Vous avez été contacté par un crapaud, Julien. Ils sont, en quelque sorte, les services secrets de la nature. Vous payez ma tête, là? Quoi? Quoi? En effet, Julien, vous êtes décidément très perspicace. Merde! Vous m'avez fichu la trouille avec votre histoire de crapaud. Mais sans rien, vous ne pensez pas que tout ça, Jean-Jacques, vous et moi, assis ici sur une souche, c'est comment dire, métaphysique? Vous êtes sérieux, Julien? Je me permets de vous rappeler au passage, juste au cas où, que vous vous adressez à un spectre, là, tout de suite. Alors, est-ce métaphysique? Réponse, oui. Oui, bon, je vous l'accorde. Mais vous êtes plutôt vivant pour un spectre. Mais je vous l'accorde également. Mais il n'empêche que ce matin-là, juste avant mon dernier pas, j'ai écouté le chant des crapauds. Et bien qu'étrange, leur chant m'était apparu mélodieux. Et je commence sérieusement à penser que la nature et ses représentants se sont adressés directement à moi ce matin-là. Abeilles, plantes, cerfs, hommes, enfants, crapauds, l'eau, les pierres, l'air, tout cela ressemble à une symphonie. Cet ensemble vu d'ici depuis le 4 juillet 2015 semble harmonieux. Disjoint, séparé, mais harmonieux. Vous entendez une musique? J'étais musicien, vous savez, pour moi, tout est musique. Tout sonne, parfois faux, il est vrai. Mais tout est emprunt à résonner, sauf... Sauf peut-être l'homme, si je puis me permettre une méchante transition misanthropique. Vous philosophez sans interruption, n'est-ce pas? Votre tête, vos pensées ne vous laissent jamais tranquille, hein? Peut-être avez-vous eu la sensation d'un grand calme intérieur lors de cette balade. Peut-être avez-vous entendu résonner votre propre musique. Vous me faites penser à Bilbo le Hobbit, dans Le Seigneur des Anneaux, une histoire que j'ai lue, quand il se laisse guider doucement vers les havres gris, parmi les elfes, au son d'une musique angélique. Vos références me sont inconnues, Julien, mais oui, sans doute. Je commençais, je crois, à ressentir les choses de cette façon. Je souhaitais le repos, l'appelais de tout mon être. Je n'attendais plus rien ici-bas, à part un peu de temps, pour contempler la nature. Ce que je fis durant de longues heures, assis devant ma cabane, sur les pentes de l'étang du désert, songeur, observant chaque détail, avec intérêt, me rapprochant de l'insignifiant, jusqu'à faire corps avec elle. Elle? Mais de qui vous me parlez, Jean-Jacques? D'une femme? De la nature, Julien, de la nature. Dans quelle sombre allée êtes-vous encore allé vous perdre ? Ben, c'est juste que vous et moi, on a des écarts de langage parfois. On ne pratique pas vraiment le même français, enfin je crois. Peut-être pas autant que vous le pensez. Mais peu importe. Revenons à nos crapauds, voulez-vous ? Voyons voir. Ah oui. Après avoir joui du concerto, j'ai, je crois, repris ma route direction ma cabane, qui se trouve d'ailleurs non loin d'ici. Souhaiteriez-vous une petite visite guidée ? Bon, si vous voulez. Cela me rappellera mon enfance, Robin des Bois, Marianne et le prince Jean. Ah, là, nous avons une référence en commun. Robin des Bois, personnage légendaire du Moyen-Âge anglais. Après avoir contourné l'étang des crapauds en direction de la cabane de Jean-Jacques Rousseau, dont il reste trace encore aujourd'hui, Jean-Jacques et Julien arrivent sur les lieux. Eh bien, Jean-Jacques, le point de vue ne manque pas de charme, hein. Je comprends que vous aimiez y glandouiller des heures durant, tranquille, à l'abri des autres. Personne pour vous emmerder, le rêve, quoi. Nous sommes d'accord. Mais tout cela me rappelle par trop ma condition d'ancien vivant. J'aimerais passer assez vite l'endroit. Continuons plutôt. Cheminons sur la route du retour, voulez-vous ? Bah, qu'est-ce qui vous prend ? On dirait que vous avez vu un fantôme, vous aussi ? Vous êtes encore plus pâle que fantomatique ? Il est vrai, j'ai, je crois, un souvenir qui remonte en mémoire, telle une marée noire. Je commence à ressentir une sorte de nausée. Vous allez vomir ? Mon dernier repas fut pris en 1778, Julien. Vous pensez sérieusement que je vais récurgiter telle une chouette ? Si c'est le cas, alors fuyez, mon garçon. L'odeur risque d'être insoutenable. Oh, désolé, ça m'a échappé. Il y a des fois où ma langue va plus vite que mon esprit. Les mots sortent un peu comme du vomi. Ça ne fait rien, Julien. Tu n'as pas tout à fait tort. Je vais peut-être vomir intellectuellement parlant. Eh bien, au contraire, allez-y, Jean-Jacques. Ça ne pourra plus vous faire de mal. Et ça nous rapprochera de la question. Qu'est-ce que vous avez magouillé dans cette cabane ? C'est délicat. Allez, on est entre potes, là. Et puis, je peux vous jurer que, même s'il me prenait l'envie de cafeter, il ne se trouverait pas un blaireau de journaliste ou d'historien pour me croire. Alors faites-vous plaisir, hein, lâchez-vous. Elle se trouve peut-être ici, votre dernière question. Bon, comme vous voulez. Eh bien, par une belle journée, je m'étais assoupi paisiblement. Je dormais. Je faisais une sieste. Lorsque soudain, j'ai entendu des bruits de pas, provenant d'un peu plus haut, sur les rochers qui forment le promontoire. Le toit de ma cabane étant fait de feuillage, j'ai pu, par interstice, voir qu'il s'agissait de deux hommes assez jeunes et bien faits de leur personne. Ils étaient nus. Nus comme la nature les a rendus à la vie. Et alors, continuez. Eh bien, ils se tenaient là, un peu comme deux Apollons, au premier matin du monde, laissant apparaître de ci, de là, leur teint rose, au milieu des fougères. Le tableau était délicat. Ils se tenaient la main, se fixant l'un et l'autre. Il faisait corps avec la nature dans ce qu'elle a de plus paisible, l'absolue beauté des choses vraies, sans apparat. Sans apparat, dites-vous ? Et ils l'ont fait ! Vous vous méprenez, Julien. Je vous parle ici d'amour, non de vils et bas acrobatiques. Je n'étais pas, Julien, en position de vice face à mes observations. J'ai tout de suite compris que ces deux êtres étaient pourchassés par la société des hommes et leur lumière vertueuse. Si je ne m'étais pas trouvé là par hasard, il se serait sans doute donné la mort. Mais alors qu'avez-vous fait exactement, Jean-Jacques ? Je suis sorti de mon antre, le plus naturellement du monde. Puis j'ai passé mon chemin, simplement, sans les juger. Rallumant ainsi un espoir dont les nombreux regards déshumanisants les avaient privés. C'est tout ? Vous êtes sorti, sans prononcer aucune parole. Dans ce cas, comment pouvez-vous affirmer les avoir sauvés ? Il n'y a pas de mots pour tout, Julien. Un regard bienveillant suffit parfois pour comprendre ce que des années de dialogues inutiles, de mensonges éhontés et de vertus moralisatrices ont contribué à détruire. De quoi donc me parlez-vous, Jean-Jacques ? J'entrave que dalle. D'amour, Julien. Simplement d'amour. Ben merde alors. Vous avez raison. Quittons les lieux, vous êtes un drôle d'oiseau tout de même. Vous avez eu une drôle de vie, pas étonnant que vous sortiez du lot. Vous êtes invendable à l'étal de la connerie humaine. Vous êtes... vous, J'aimerais vraiment que vous m'expliquiez comment vous faites. Je suis moi, tu es toi. Nous avons juste une petite lucarne pour observer le monde. Une petite cabane mentale depuis laquelle nous l'étudions. Mais prendre la décision de sortir pour prendre la route et partir à sa découverte, ça, Julien, ça nous appartient. Je crois que ça tourne, là, Jean-Jacques. Je vais peut-être finalement vomir. Vous avez réussi à me saouler sans une goutte d'alcool. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous êtes fort. Allez, Julien, en route. Sortons de cette cabane. Cela nous fera du bien. Il me semblerait que m'établir avec tant d'appareils dans un lieu serait me bannir de tous les autres et m'emprisonner, pour ainsi dire, dans mon palais. C'est un assez beau palais que le monde. Tout n'est-il pas aux riches quand il veut jouir ? L'île au peuplier.
Feuilleton autour de Jean-Jacques Rousseau et du parc d'Ermenonville.
Écrit par Gontran Bodequin. Montage Frédéric Gis.
Et podcast sur notre site www.radio-valois-mulcien.fr.